on va baisser le son de la musique. Monsieur Reichmann.
Oui.
Bon, ben c'est fantastique, ça fonctionne.
Bon.
Alors, juste pour peut-être revenir sur cette affaire de Clearstream. Bon, là, Dominique de Villepin, Monsieur de Villepin, lui, est convoqué. Juste peut-être nous dire pourquoi il est convoqué. Qu'est-ce qui est en jeu en ce moment du côté de Monsieur de Villepin? C'est quoi les sommes? De quelles sommes on parle ici, par exemple?
Ben, les sommes, vous pouvez peut-être dire de l'argent qu'on lui a demandé de consigner pour garantir sa représentation.
Exactement.
Oui, mais ça, je trouve que c'est une mesure vraiment vexatoire et inutile, parce que ces sommes, quand on les fixe, sont destinées à permettre, ou plutôt à obliger les gens à se présenter à la justice, sinon ils risquent de perdre le cautionnement qu'ils ont versé. Mais dans le cas de M. de Villepin, il n'a jamais imaginé se soustraire à la justice. Donc je trouve que cette demande de cautionnement était vraiment d'abord exagérée et ridicule et vexatoire, et elle a été réduite d'ailleurs par la cour d'appel, mais enfin il est quand même, il a versé une chose comme plus exactement 20, alors je ne me souviens plus, 30 000 euros ou peut-être un peu plus même. Enfin, je n'ai plus en tête le chiffre exact. Enfin, de toute façon, c'est un aspect, si vous voulez, un petit peu parallèle. Mais ce qui est important sur tous, enfin ce qu'on reproche à M. de Villepin, c'est d'avoir en quelque sorte contribué à mettre en cause, à dénoncer de manière calomnieuse, c'est le terme exact, dénonciation calomnieuse, une personne en particulier qui est plaignante, c'est M. Nicolas Sarkozy, qui est donc qui était accusé par le faux listing de Clearstream de détenir un compte dans cet organisme de cette chambre de compensation située au Luxembourg. Et donc, il s'est très vite révélé que ce listing était trafiqué, qu'il n'avait aucune existence réelle. Et à partir de là, ce qui est vraiment reproché à M. de Villepin, c'est d'avoir en quelque sorte instrumentalisé cette affaire pour nuire à M. Sarkozy dans sa campagne présidentielle et pour éventuellement favoriser la propre candidature de M. de Villepin. Bon, cela dit, M. de Villepin le nie avec beaucoup d'énergie, et d'autre part, jusqu'à présent, les magistrats n'ont rien prouvé de bien déterminant. Il va y avoir des confrontations dans les prochaines semaines entre le général Rondeau, qui avait été chargé par M. de Villepin d'une mission de vérification, et M. de Villepin lui-même, et un certain nombre d'autres participants, dont M. Gergorin, qui est le corbeau, parce que maintenant il est établi que c'est lui qui a envoyé, mais avec l'accord du magistrat, les listings au juge Van Rimbeek. Donc voilà, toute cette affaire semble à la fois très simple et très compliquée. Elle est très simple parce qu'il s'agit d'une manipulation assez grossière, et elle est compliquée parce qu'elle se déroule sur fond de lutte d'influence au sein de ADS et de rétro-commission, comme je vous le disais tout à l'heure, avant que nous n'ayons une difficulté technique, sur fond de rétro-commission des frégates de Taïwan.
Voilà
à peu près le cadre dans lequel se déroule cette affaire, et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que le mieux serait qu'on lève une bonne fois le secret défense sur ces fameuses rétro-commissions versé dans le cadre de la vente des frégates à Taïwan, auquel cas il y a un certain nombre de choses qui apparaîtraient, mais si on ne l'a pas levé jusqu'à présent, c'est pour protéger précisément ceux qui touchent des rétrocommissions et qui, contrairement à ce que l'on croit, ne sont pas tous forcément des politiciens ou des hommes d'affaires, mais souvent des intermédiaires qui servent dans de nombreuses transactions et qu'il n'est pas souhaitable, semble-t-il, d'après ce qui se dit, de dévoiler au grand public, parce qu'ils perdraient à ce moment-là leur efficacité, leur crédibilité. Mais enfin, bon, là, on est vraiment dans un domaine où, je dirais, tout peut arriver. Enfin, ce qui est certain aussi, c'est que tout cela se déroule sur un fond d'extraordinaire malhonnêteté généralisée. On le voit bien dans l'affaire EADS, etc. Vraiment, l'argent coule à flot chez un certain nombre de personnes, tandis que le pays, lui, s'appauvrit. Donc,
exactement. C'est ça qui m'agace un peu, qui m'agace beaucoup, M. Reichmann. Parce que Clearstream, je le compare un peu, nous, au scandale des commandites que nous avons eu il n'y a pas si longtemps, de oui. la part du parti du libéral, parti libéral, qui ont tout simplement attribué des contrats comme ça entre copains. Oh, oui, ils se sont attribués des contrats facilement. Pour emprunter ce que vous venez de dire, l'argent coule à flot de leur côté, voilà. Mais la dette, elle continue de devenir de plus en plus grosse. Je trouve ça désolant. Et le peuple, lui, réagit pas tant que ça. Oui.
Jusqu'à présent, le peuple semble ne pas réagir, mais l'opinion est en train de bouger en France.
Ah bon, ok.
Et ça se sent à travers un certain nombre d'articles de presse. Vous savez, les journalistes sont des gens qui, en général, suivent l'opinion plus qu'ils ne la précèdent. Et lorsqu'ils écrivent un certain nombre d'articles très critiques, comme maintenant sur le comportement des dirigeants de ADS, par exemple, c'est que vraisemblablement l'opinion est en train de bouger très fort. Et en particulier, ce que n'arrivent pas à concevoir les gens, c'est que des hommes qui ont été placés à la tête d'une société où l'État avait des parts importantes, et où elle avait en plus une société stratégique, puisqu'elle fabrique des avions non seulement civils, mais des avions militaires également, des fusées, enfin toute une série des hélicoptères, et bref, que tous ces hommes... des retards allaient se produire dans la construction de l'A380 et que par conséquent le titre allait forcément baisser parce que les inquiétudes sur la commercialisation de l'avion allaient faire par définition baisser le titre et qu'ils se sont précipités de vendre leur stock option alors même qu'ils auraient dû par décence les conserver. Ils ont donc démontré à la fois leur cupidité et leur volonté, surtout leur peu de confiance dans la boîte qu'ils dirigeaient. Donc tout ça... Ça crée évidemment dans l'opinion publique un sentiment extrêmement négatif et en plus, comme on le disait tout à l'heure, oui. Il y a de grandes difficultés économiques en France en ce moment, il y a énormément d'entreprises qui ferment parce qu'on n'y arrive pas, la politique de Sarkozy ne semble pas être destinée à produire des effets, en tout cas l'opinion des gens semble désormais ne plus considérer que cette politique puisse réussir. Et tout ça, ça fait un mélange explosif. Mais et donc maintenant, on peut s'attendre dans les semaines qui viennent à des développements tout à fait importants parce que justement, ce mélange d'argent qui coule à flot et d'une manière plus ou moins honnête ou plutôt plus ou moins malhonnête est insupportable à une opinion publique qui, elle, a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
Ça fait déjà presque 6 mois que Nicolas Sarkozy est en poste.
Ça fait 5 mois exactement,
cinq mois et quelques jours, et j'ai pas eu l'impression qu'en pour ce laps de temps-là, il y a eu vraiment des résultats, qu'il y a eu que quelque chose a bougé, parce que là je vous écoute, vous me dites, ouais bon, on sent pas que Nicolas Sarkozy assure.
Le problème est le suivant, il est arrivé avec un programme dont il pensait, sans doute sincèrement, qu'il allait provoquer un choc de confiance dans l'opinion. Or, l'opinion voit ce programme. Alors, il est évidemment trop tôt pour juger des résultats, puisque ce programme commence seulement à être mis en œuvre. Mais le problème de la confiance, c'est de savoir ce que tel ou tel programme va donner. Même si par exemple, tout le monde était persuadé que ce programme allait apporter des résultats, il n'y aurait pas de chute de confiance. Mais à partir du moment où les gens doutent, et ils ont raison de douter, parce qu'il n'y a rien dans ce programme qui puisse régler les problèmes essentiels que sont la baisse de l'activité économique, la dette, les déficits, etc. Donc les gens n'ont plus confiance, ou en tout cas ont de moins en moins confiance, même si les cotes de confiance restent encore relativement satisfaisantes pour M. Sarkozy. Mais si vous voulez, la politique, c'est aussi l'art de se projeter un petit peu dans l'avenir. Et ce que les gens voient bien, c'est que l'avenir ne leur réserve rien de bon et que les projets de M. Sarkozy ne leur apporteront rien non plus. Donc c'est la raison du début de crise actuelle, du fait que le Premier ministre semble lui aussi prendre ses distances. Enfin bref, il y a toute une série d'événements et d'éléments qui nous font penser que la petite lune de miel...
Oui.
Que M. Sarkozy a pu avoir à l'opinion est d'ores et déjà bien terminé.
Oh,
et que déjà terminé. Vers les difficultés.
Déjà terminé.
Ah oui, ça, elle est terminée.
Ok. Donc,
maintenant, écoutez, il y a même des journaux qui écrivent,
oui.
enfin, qui mettent en doute, comment dire, l'équilibre mental de M. Sarkozy, et des journaux de droite. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans Le Point et dans Le Figaro de ces deux derniers jours, trois derniers jours, des articles qui s'étonnent du comportement de M. Sarkozy, qui semble sauter sur place en disant « je veux », et que ceci n'est absolument aucun rapport avec des mesures prises pour que cette volonté trouve un accomplissement. Et il se demande si vraiment il a tout son équilibre. Alors ça, c'est quand même un signe. Parce que pour un homme politique, être suspecté de ne pas avoir tous ses esprits, c'est quand même pas un gage de confiance.
Attendez, là, est-ce que vous faites référence à la fois qu'il revenait d'un dîner avec Poutine?
Non, c'est, oui, là, disons que il avait peut-être bu un coup de vodka, je ne sais pas. Il paraît qu'il ne boit pas, enfin bon, il a pu faire une exception ce jour-là. Mais non, là je fais référence à un article du Point de cette semaine et un article du Figaro également de cette semaine, d'hier d'ailleurs, qui s'étonne du fait que les déclarations actuelles de M. Sarkozy, qui a réuni l'autre jour les députés et les sénateurs de sa majorité, et qui leur a qui affirme qu'il va aller chercher la croissance avec les dents, etc., et tout ceci n'est pas sérieux ni raisonnable, quoi. Donc c'est bien que certains journalistes commencent à s'interroger sur le fait que M. Sarkozy a peut-être pris un syndrome de grosse tête ou quelque chose comme ça. mais c'est quand même inquiétant, parce que vous savez, l'opinion publique, bon, elle retient toujours quand même une partie de ce qu'on lui raconte, et si déjà des journalistes en sont à écrire ça, c'est que ça ne va pas très bien.
Et par exemple, je sais qu'il y a énormément de dossiers, M. Reichmann, du côté de la France, qui devraient être réglés, et on ne parle pas de dans un an ou dans deux ans, mais on parle de maintenant. Mais oui. qu'est-ce que Nicolas Sarkozy, je sais pas si, je pense que vous n'êtes pas un grand fan à la base de Nicolas Sarkozy, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour peut-être maintenant, là, concrètement, peut-être changer l'opinion publique qui, enfin, la lune de miel est terminée. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour, dès maintenant, là?
Oui, ben, c'est-à-dire que, bon, moi, je ne souhaite pas l'échec de M. Sarkozy.
Mais non.
L'échec sera celui de la France également, donc.
Exactement.
Je souhaite qu'il réussisse, même si je n'y ai jamais vraiment cru, parce que je le connais depuis longtemps. Je sais que c'est un homme qui n'a pas, à mon avis, il n'a pas les qualités qu'il faut dans une circonstance comme celle-ci. Ben, en réalité, ce qu'il aurait dû faire, c'est arriver avec un vrai programme de rupture, et non pas avec des mots de rupture seulement. Parce que, vous savez, quand on veut faire une rupture dans un pays démocratique, on n'a pas beaucoup de temps devant soi. Parce que les gens se lassent vite, d'une part, et que d'autre part, les phénomènes de confiance ne durent non plus jamais très longtemps. Donc, quand vous voulez vraiment faire quelque chose de fort, et il faut toujours faire quelque chose de fort, il faut le faire tout de suite. Donc, il aurait dû arriver avec un plan de baisse des dépenses publiques et de baisse des impôts, ou en tout cas d'une baisse des dépenses publiques très forte et d'une baisse des impôts un peu plus légère, de façon à pouvoir commencer à réduire le déficit. Et la baisse des impôts aurait aussi rétabli la confiance des acteurs économiques. Alors, il n'a rien fait de tout cela. Au contraire, il a fait une relance que l'on appelle keynésienne, c'est-à-dire il a pensé qu'en redonnant de l'argent, en supprimant une bonne partie des droits de succession, en créant des exonérations de charges fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, etc., il arriverait à redonner en quelque sorte du carburant à la croissance, et que cette croissance s'auto-entretiendrait, etc. Mais bon, c'était une illusion, parce que la situation de la France est beaucoup trop déprimée pour que ce genre de mesures puissent être efficaces. Non, ce qu'il faut actuellement en France, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il pourrait encore faire d'ailleurs maintenant, même s'il n'a plus, à mon avis, le capital de confiance suffisant, c'est décréter une baisse autoritaire de toutes les dépenses publiques et sociales d'un montant relativement important et de façon totalement générale, c'est-à-dire sans aucune exception. Vous savez, quand dans une famille, quand il y a une difficulté financière, bah, toute la famille paye son écho. Eh bien, de même, quand une nation a 1200 milliards de dettes, sans parler des dettes vis-à-vis des fonctionnaires, et qu'elle a un déficit de son budget de 40 à 41 milliards d'euros, 41,7 pour être précis, prévue pour l'année suivante, bon, la première des choses à faire, c'est de baisser les dépenses publiques. Or, il n'y a aucune baisse des dépenses publiques prévue. Le déficit doit se poursuivre. Et hier, dans Le Monde, il y avait une interview de M. Jean-Claude Juncker, qui est le Premier ministre du Luxembourg et surtout le président de l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, c'est un groupe qui rassemble les 13 États membres de l'euro. Et donc, M. Juncker a dit, premièrement, que M. Sarkozy aurait quand même dû respecter la parole de la France qui avait promis par la bouche de M. de Villepin, mais vous savez que, en principe, en démocratie, un État est responsable des promesses faites par les prédécesseurs de ceux qui sont au pouvoir. Donc, M. de Villepin avait promis que, pour 2008, le budget n'aurait que 1,8% du PIB de déficit, et M. Sarkozy vient de présenter un budget avec 2,3%. Donc, M. Juncker dit qu'il aurait dû respecter cette promesse, et surtout, il dit qu'il faut, c'est ce que je viens de vous dire, oui. Il faut baisser les dépenses publiques en disant que la France est le pays de l'Eurogroupe qui a le plus, et même de l'Union à 15, je crois, qui a le plus de dépenses publiques. Donc, exact. Le mal français, c'est essentiellement que nous dépensons trop pour l'État et pour la sécurité sociale. Donc, il faut réduire ces dépenses et il n'y a pas d'autre moyen que de dire, eh bien, désormais, nous donnerons moins à l'État et les organismes sociaux vous verseront moins. Donc, c'est ce qu'on aurait dû prendre. Ça aurait permis, d'une part, de baisser les impôts, alors moins que du total, parce qu'il faut aussi rembourser la dette, mais ça aurait donné un signal très fort et ça aurait surtout montré à la nation que tout le monde était concerné. C'est une affaire. Il ne s'agit pas de savoir si dans tel secteur on doit baisser un petit peu ou dans tel autre s'il faut faire des efforts. Il s'agit de baisser partout.
Mais Monsieur Reichmann, je trouve que vous êtes idéaliste, car la gauche risque de grogner automatiquement.
Bah écoutez, je ne pense pas en l'occurrence être idéaliste, parce que d'abord la gauche n'a plus beaucoup d'impact pour l'instant, elle le reprendra peut-être, mais okay, elle est fortement amoindrie par sa défaite et surtout par son absence de perspective. Et je pense surtout que le programme que je viens de vous décrire, oui, est un programme qui ne peut être appliqué qu'après une préparation psychologique, c'est-à-dire une préparation de vérité. Il faut dire la vérité aux Français.
Voilà.
Alors, ils la connaissent d'ailleurs d'une certaine manière, puisqu'il y a eu pas mal de rapports qui l'ont dit. Bon, M. Cantsu, qui est l'ancien gouverneur du Fonds monétaire international, a fait un rapport tout à fait éloquent à cet égard. Les Français le savent. Bon, mais il aurait fallu arriver en disant, voilà, nous sommes dans une situation dramatique. Voici les mesures que nous allons prendre pour en sortir. Ça durera un certain nombre d'années, pas très très longtemps, parce que si on fait des dépenses très fortes et très rapidement, les résultats sont évidemment beaucoup plus rapides que quand on fait des mesures de réduction partielle du nombre de fonctionnaires, etc. Ça prend énormément de temps. Donc voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et la gauche, si ça avait été fait tout de suite, la gauche était complètement chaos. Et même encore maintenant, elle n'est pas beaucoup mieux. Donc je ne pense pas que ça n'est pas du tout impossible. Le problème, oui, c'est que vous ne pouvez pas, ce genre de politique, vous ne pouvez la faire d'abord que si vous l'avez conçue, ça c'est évident, et deuxièmement, vous ne pouvez la concevoir que si vous êtes dans une situation psychologique qui vous le permette. Mais les gens qui nous gouvernent en France actuellement, ce sont des gens qui n'ont jamais fait autrement que ce qui s'est fait tout le temps pendant 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc, ils ne savent pas prendre des mesures rigoureuses, générales, ils n'ont pas de vision, et pour tout dire, ce ne sont pas des grands hommes.
Est-ce que...
Alors, ça limite leur qualité.
On nous pose une question via le live @rockick.com. Est-ce que la France est irréformable?
Eh bien, écoutez, dans le cadre actuel, oui. La France est irréformable parce que... c'est exactement comme... Comment vous dire? Prenez le cas d'un automobiliste, ou d'une automobile plutôt, où il y a 3-4 personnes, et un conducteur qui ne sait pas conduire. Bon, si les gens qui sont dans l'automobile disent au conducteur, il faudrait conduire mieux, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, bon, le type ne sachant pas conduire, ça n'ira pas bien. Donc il faut mettre à la tête de l'automobile, en l'occurrence et de la France, puisque c'est d'elle qu'on parle, des gens qui soient capables de la conduire. Or, dans le cadre actuel, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que on peut considérer que actuellement la France est irréformable et qu'on va vers des difficultés de plus en plus grandes.
OK. Et on parle de peut-être changer quelque chose dans quoi? Dans 2, dans 3, dans 4 ans, mais en autant qu'on suive un peu la ligne directrice que vous venez de nous faire savoir, de réveiller tranquillement.
Oui, c'est-à-dire que, voilà, moi je pense que cette ligne ne peut être adoptée qu'une fois qu'il y aura une forte prise de conscience. Parce que, vous savez, l'état d'esprit des gens actuellement consiste à dire, d'abord consiste à mettre la tête un peu sous l'édredon, parce qu'ils ne voient vraiment pas où on va.
Exact.
Et d'autre part, beaucoup de Français qui ont voté pour Sarkozy disent, oui, mais alors, d'accord, ce qu'il fait n'est pas formidable, ou même n'est pas bien, mais le problème, c'est qui d'autre ? Donc actuellement, moi je leur réponds toujours, mais le problème ne se pose pas du tout dans ces termes. La nature ayant horreur du vide, il y aura toujours des gens qui naîtront, et enfin du moins ils ne naîtront pas parce qu'ils sont forcément nés déjà, mais qui ont les qualités nécessaires pour diriger le pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un choc de vérité. Et je pense que tant que les Français ne verront pas de leurs yeux et n'entendront pas de leurs oreilles que la situation n'est plus maîtrisée, eh bien, ils ne se décideront pas à chercher à l'intérieur de leur peuple les hommes et les femmes qui seront capables de prendre en main la situation et de les en tirer. On est toujours surpris. Vous savez, c'est la fameuse histoire qui est souvent un petit peu ridicule. On raconte aux gens qui n'arrivent pas à se faire connaître, notamment dans les milieux artistiques. Alors on dit, mais vous ne pouvez pas passer à la télévision parce que vous n'êtes pas connu. Ah bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour être connu? Ben, il faut passer à la télévision. Donc voilà. Et finalement, le vrai problème est là. En fait, pour l'instant, on fait avec des gens connus. Mais il va venir un moment où on va être obligé de faire non pas avec des gens inconnus, mais des gens qu'on ne connaît pas encore, tout simplement. Parce qu'eux disposent des analyses qui sont les bonnes et qui permettront de faire enfin les vraies réformes. De ce point de vue-là, on peut vivement regretter que M. Sarkozy ait à la fois remporté un succès sur une très bonne base, qui était la base de la rupture. C'était très bien de dire ça, c'est très bien d'avoir fait avaliser par le peuple, mais qu'il gâche cette rupture par des mesures insuffisantes.
En une minute, M. Reichmann, vous pensez à qui là, pour gouverner, ou enfin qui pourrait peut-être changer les choses? À qui vous pensez-vous?
Écoutez, pour l'instant, personne n'a en magasin d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel en France, mais ça ne m'inquiète pas du tout, parce que je pense que lorsque la situation sera vraiment mûre pour des changements, de vrais changements, un peu partout, il y aura des gens qui se lèveront, qui se feront connaître, qui se feront apprécier, et on s'apercevra à ce moment-là qu'il y a en France beaucoup de gens capables, des gens qui ont des diplômes, de l'expérience professionnelle, de l'expérience civique même, et donc tout ça se fera sans aucune difficulté, mais il faut, pour qu'on y arrive, il faut que les gens comprennent enfin que c'est fini de rigoler, qu'il faut vraiment passer aux choses sérieuses.
Monsieur Reichmann, je tiens à vous exprimer que j'apprécie énormément vos interventions ici sur le www.rockick.com et que je suis votre premier fan, soit dit en passant.
Merci beaucoup.
Et on se reparle la semaine prochaine.
À la même heure.
Merci.
Pas de problème.
Au revoir, Monsieur Reichmann.
Au revoir.
Alors, c'était on va dire le docteur Reichmann.
Oui,
excellent, hein? Excellent communicateur.
Oui,
j'adore
oui.
Le personnage. Écoute, c'est mon maître, j'apprends de mon maître, pour être en mesure de m'exprimer de manière très diplomate. C'est un bon diplomate, ce gars.
Oh oui, oui. Donc, qui peut gouverner en France, on ne le sait pas. On a essayé d'aller chercher les noms, on ne le sait pas. On est comme dans une période où...
Ouais.
C'est la noirceur.
Ouais.
C'est comme si on continuait l'idée de Chirac, c'est-à-dire aucune.
Il ne se passe rien,
on n'a aucun programme.
Il ne faut pas se leurrer, là. Regarde, Nicolas Sarkozy a appris de qui tu penses.
Ouais.
Tu l'as nommé, là. C'est Jacques Chirac exactement.
Ouais. Parce que là, c'est ça, on a un problème. On a pas de programme.
C'est la même politique. C'est comme si, dans le fond, Nicolas Sarkozy, c'était une marionnette, on lui avait mis la main dans le derrière et allô. Dans le fond, c'est Jacques Chirac. Oui. Voici, je suis un nouveau personnage. Et en réalité, c'est la même façon de gouverner de Jacques Chirac.
C'est ça.
Avec un petit peu de droite sur le dos, mais à part ça, là, non, franchement, là, ça a aucun bon sens. Il est 7h31, on s'arrête immédiatement. On revient tout de suite après ceci, justement, avec des nouvelles sportives et Christian Dallaire. On botte des derrière. Maintenant, on le sait toutes. C'est comme ça, le nouveau slogan de la station du www.rockick.com. Wake up le show, 6h à 10h. Ratez pas l'interview tout à l'heure avec Mme Cousineau qui a acheté un véhicule chez Ancan. H. Grégoire, c'est quand même assez spécial cette histoire-là. Oui. Alors, vers 7h45, 7h50 dans ce coin-là, on va l'entendre. Croyez-moi, ça va en choquer plus d'un. On botte des derrière. Maintenant, on le sait tout. C'est comme ça que ça fonctionne. 6-10 pour l'Amérique du Nord, midi à 16h. On vient tout de suite après ceci.
Une case en moins!
Rocky.com.
C'est bien.